itinéraire.
Itinéraire
sur RCF.
À Blois, la semaine dernière, la guerre était au cœur des rendez-vous de l'histoire. Après la guerre vient le temps de la paix et du témoignage. Je suis aujourd'hui avec M. Pierre Alban Thomas, qui a vécu trois guerres. Résistant, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie. Monsieur Thomas, bonjour.
Bonjour.
Il y a 20 mois, pour célébrer la fin de la guerre d'Algérie, je vous ai rencontré et vous avez accepté de poser pour moi. Je vous ai pris en photo. Pourquoi avez-vous accepté, alors que toutes les demandes que j'ai faites aux alentours, elles ont toutes été refusées?
Parce que je n'ai rien à cacher. J'ai toujours dit la vérité. J'en suis fier. Et je n'ai pas l'intention de mentir maintenant. Donc, je pense que me cacher d'une photo comme du reste, ce serait mentir.
Mais mentir, on peut aussi métamorphoser, transformer la réalité.
Oui, bah, évidemment. D'ailleurs, vendredi soir, je dois intervenir à Vineuil au sujet des témoignages. Et j'ai bien l'intention de mettre les pieds dans le plat en ce qui concerne les fausses déclarations, les faux témoignages. J'ai été témoin dans ma vie d'un certain nombre d'entre eux, de Bijard en particulier, de Griot qui est devenu général, qui était le commandant Georges, et de pas mal d'autres, alors que j'ai connu inversement beaucoup de gens qui ont été très sincères dans leurs déclarations. Je prétends faire partie de ceux-là.
La force de la pédagogie du témoignage est-elle utile pour les jeunes générations? Nous avons passé 2 heures cet après-midi ensemble au Musée de la Résistance. Pourquoi, à 91 ans, vous continuez à faire ça?
Si j'en juge par les réactions des jeunes et des moins jeunes qui étaient au Musée de la Résistance, je crois que pour moi c'est une satisfaction de voir qu'ils ont été extrêmement attentifs et qu'ils ont retenu, je l'espère, une partie de ce que je leur ai dit. Et le fait qu'ils le gardent dans leur mémoire, ça leur servira peut-être dans la vie, du moins je l'espère, une partie tout au moins, pour ne pas retomber dans des erreurs que nous avons pu commettre nous-mêmes.
Je disais que nous nous sommes rencontrés il y a 20 mois. Quand je suis rentré dans votre bureau pour vous tirer le portrait, j'étais surpris par une image. Vous voyez à quelle image j'ai fait allusion? Une image en noir et blanc, grand format, qui est accrochée dans votre bureau. Vous comprenez mon émotion?
Parfaitement. Je sais que votre famille est d'origine algérienne et la photo en question a été prise par un de mes amis, mais qui à l'époque était un de mes soldats et qui était photographe professionnel, qui avait pris un certain nombre de photos. J'avais trouvé celle-là tellement belle que je lui avais dit, et il m'a fait la surprise un jour de m'en apporter l'agrandissement que j'ai fait encadrer et que j'ai maintenant dans mon bureau.
Est-ce que c'est la guerre d'Algérie qui vous habite ou est-ce que c'est le pays? Parce qu'en fait, vous avez participé à plusieurs guerres, pas uniquement à la guerre d'Algérie. Vous pouvez nous rappeler à quelle guerre vous avez participé?
J'ai d'abord été résistant, donc en France, luttant contre l'occupant de mon pays. J'ai ensuite fait la campagne d'Allemagne dans la foulée, donc luttant toujours contre l'occupant de mon pays qui était en déroute à ce moment-là. J'ai après ça malheureusement participé à la guerre d'Indochine et là j'ai eu la douleur de me trouver dans une armée d'occupation qui luttait contre les résistants de ce pays qui voulaient l'indépendance contre l'armée d'occupation. Puis, j'ai récidivé en Algérie, où je me suis trouvé dans les mêmes situations qu'en Indochine.
Itinéraire. Itinéraire sur RCF.
Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Pierre Alban Thomas. Trois guerres, c'est pas trop pour un seul homme. Entre le jeune résistant et l'homme qui épouse une carrière militaire, quelle est votre évolution ?
Je dois vous dire que je ne me destinais pas à la carrière militaire. Mon père était pacifiste, internationaliste. Il avait participé aux entretiens d'Amsterdam-Pleyel. Il est mort, j'avais 4 ans, donc je ne l'ai pratiquement pas connu. Mais j'ai été imbibé de son esprit, de sa volonté de vouloir faire changer le monde par le communisme. Oui, c'était son rêve. Il avait participé à Tours, au congrès de Tours, avec Paul Boncour, qui était un de ses amis. Paul Boncour est revenu toujours adhérent de la Deuxième Internationale. Lui a opté pour la Troisième, donc pour le communisme. Et ma famille avait des idées à peu près semblables. Ce qui fait que je ne me destinais pas du tout à une carrière militaire. Je pensais être enseignant et puis apprendre à mes élèves le pacifisme et tout ce qui en découle. Pourquoi je suis devenu militaire de carrière ? Eh bien parce qu'en 1940, j'ai vu déferler sur le territoire français des troupes étrangères imbibées d'une idéologie horrible, le nazisme. Et je me suis dit qu'il fallait prendre les armes contre ces gens-là.
Ça n'a pas dû être facile pour vous. Je m'explique. Vous parliez d'un idéal communisme, mais parfois les rêves, vous avez parlé de rêves, parfois les rêves se transforment en cauchemars, non ?
Il s'est transformé en cauchemar, puisque le communisme a été complètement dévoyé par Staline, par Mao et autres. C'est Laurent Schwartz, le célèbre mathématicien, qui me dit, que je connaissais bien, qui me disait un jour, vous et moi, nous faisons partie du plus grand parti de France, celui des déçus du communisme. Et c'est vrai.
Trois guerres, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ressemblances entre les guerres ? Ou est-ce qu'il y a des différences par rapport à votre expérience ? Est-ce que vous avez pu constater des différences ?
Eh bien, il y a les deux, il y a des ressemblances et des différences. La ressemblance, c'est que chacune de ces trois guerres opposait des troupes d'occupation à des résistants qui voulaient la libération de leur pays. Ça, c'est la ressemblance. Des différences, il y en a, puisque on ne peut pas comparer, par exemple, l'Indochine et l'Algérie. L'Indochine, c'était une colonie d'exploitation. L'Algérie, c'était une colonie de peuplement. On avait pensé que les Algériens voulaient être français et qu'ils adopteraient toutes les règles de la vie en France pour en faire la même chez eux. Or, en Indochine, c'était totalement différent. C'était un peuple différent du nôtre. Et nous, on pensait, quand on est arrivé en Algérie, que les Algériens voulaient être français. On y croyait dur comme fer. Et ça a été un malentendu.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Itinéraire.
Itinéraire.
Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
Je suis en compagnie de M. Pierre Alban Thomas, qui a la particularité d'avoir vécu trois guerres. La guerre de 45 comme résistant, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. M. Pierre Alban Thomas, quel est le morceau de musique qu'on vient d'entendre?
C'est l'affiche rouge.
Les textes sont de...
Les textes sont d'Aragon et la musique de Léo Ferré. Et le chant est de Léo Ferré. J'ai choisi cette chanson-là parce qu'elle est bouleversante et à chaque fois que je l'entends, je suis très très attristé pour plusieurs raisons. La principale, c'est que lorsque j'ai tenté de passer en Afrique du Nord par l'Espagne, en 1943, je suis parti avec trois camarades, trois bons camarades. Tous trois se sont fait arrêter sur la frontière espagnole, ont été déportés et sont morts en déportation. J'ai eu la chance de m'en sortir seul. Alors, voyez un peu si je peux avoir le cœur serré lorsque je pense à eux et que j'entends une chanson et une musique comme celle-là.
Cette chanson et cette musique porte le titre de l'affiche rouge. Mais l'affiche rouge, qu'est-ce que c'est précisément? Quelle est l'histoire de cette chanson?
Les Allemands, dans le cadre de leur propagande, avaient pensé qu'il était bon de faire croire à la population française que les résistants étaient des truands, des malotrus, des gens de mauvaise vie. Et ils ont choisi des visages de personnes qu'ils avaient arrêtées et qui sont tous des étrangers avec un type proche-oriental prononcé.
Suspect, quoi, louche.
Comment ?
Des têtes suspectes, un peu louches.
Voilà, c'est ça, le délit sale gueule.
Délit sale gueule.
Bon, alors donc, ils les ont mis bien en évidence. Et comme ils avaient des noms tous pratiquement imprononçables, puisqu'ils étaient d'Europe centrale, juifs, communistes pour la plupart, la population française croyait les Allemands seraient impressionnés par ces gens-là en leur faisant croire que ce n'étaient pas des bons Français, que ce n'était pas ce que voulait le maréchal Pétain, ce n'étaient pas les grands bleus, les grands blonds aux yeux bleus chers à Hitler et autres. Voilà.
D'ailleurs, cette affiche, on peut la retrouver au Musée de la Résistance, je crois, hein, dans une des salles consacrées à la thématique de la Résistance.
Oui, oui.
Dans votre jeunesse, vous l'aviez vue, cette affiche, vous, ou on ne la voyait pas en Loir-et-Cher?
Elle a paru, mais je vous mentirais si je vous disais que je l'ai vue. Alors, je préfère vous dire que je ne m'en souviens pas.
On ne va pas rentrer dans le détail de votre activité de guerre en Indochine ni en Algérie. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment un jeune homme qui se destinait au métier d'enseignant, puisque je crois que vous avez fréquenté l'école normale de Blois, qu'est-ce qui se passe en vous pour abandonner le métier d'enseignant pour épouser celui de la guerre?
La première chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand j'ai vu les troupes allemandes déferler et puis l'idéologie allemande qui nous était pratiquement imposée.
Mais à l'indépendance, vous auriez pu à nouveau prendre la carrière de l'enseignement?
Exactement. Mais savez-vous que je croyais fermement au communisme, que le communisme allait changer le monde, qu'il allait apporter le bien-être sur la terre, qu'il allait effacer les races, les différences de races et de religion, etc. Et que nous allions vivre des lendemains qui chantent. J'y croyais quand j'avais 20 ans.
Et vous pensez que ça allait se passer par les armes?
Bien sûr, beaucoup de mes camarades le croyaient. Qu'est-ce que vous venez de me dire? Pardon, je n'ai pas compris.
Vous pensiez que ça allait se passer par les armes, cette pacification, le bonheur pour tout le monde?
Oh non, j'en savais rien du tout. Je ne savais pas, moi, à 20 ans. Je ne pouvais pas savoir comment...
Parce que quand vous êtes parti en Algérie, en 54, vous aviez quel âge?
En 54?
Oui.
Eh ben, je devais avoir 35 ans à peu près.
35 ans, mais à 35 ans, vous n'étiez plus le jeune homme qui avait 20 ans, qui cherchait.
Non, mais il faut que je revienne en arrière.
Allons-y, alors revenons.
Bon, alors, comme je croyais au communisme, et lorsque j'ai été désigné pour l'Indochine, je me suis demandé ce que j'allais faire là-bas. Et je suis allé trouver la direction du Parti communiste. J'ai été reçu par Élie Mignot, qui était avec Léon Feix, les deux responsable des affaires coloniales au sein du Parti communiste. Puis je leur ai expliqué ma situation. Ils m'ont dit, mon vieux, il faut que tu restes dans l'armée, parce qu'il y a très peu de cadres de notre rang, de notre classe sociale, qui sont dans l'armée, et il ne faut pas laisser ça aux officiers de caste. Il faut que tu restes. C'est ton devoir de communiste, m'ont-ils dit. Alors que je n'avais pas de carte du parti, mais enfin, je croyais toujours à cette idéologie-là. Et alors donc, je suis resté dans l'armée et j'ai suivi le sort.
Très bien. On va revenir sur ce point, si vous le voulez bien.
Itinéraire.
Itinéraire. Itinéraire sur RCF.
À la lecture de votre ouvrage « Le désarroi d'un officier en Algérie » aux éditions du Seuil, j'ai lu des propos, j'aimerais que vous m'éclairiez là-dessus. Que veut dire faire honnêtement son métier pour un soldat? J'avoue que j'ai du mal à comprendre.
Le mot « honnêtement » pourrait être mis entre guillemets, hein, parce qu'il est, il peut être perçu de deux façons différentes. Premièrement, par les autorités militaires, à savoir que l'officier, comme le sous-officier, comme l'homme de troupe d'ailleurs, sont là pour obéir au doigt et à l'œil. Et puis alors, il y a une autre version qui est, entre guillemets, qui veut dire qu'on est obligé de le faire, mais que intérieurement, on peut penser le contraire.
Vous dédiez votre livre aux morts desquels vous avez pris une part de responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ? La dédicace, certes, mais comment vous vivez avec cette situation d'avoir... Parce qu'aujourd'hui, vous faites œuvre de pédagogie, vous faites passer des messages de paix. Je crois que vous êtes aussi engagé écologiste, en tous les cas, vous l'êtes dans l'âme. Comment vous gérez ces morts, à la fois aussi bien pendant la guerre contre les Allemands, en Indochine, en Algérie ? Y a-t-il pas une dualité dans votre personne ? Vous n'êtes pas, quelque part, interpellé par votre conscience ?
Moi, si, puisque je vous dis, j'avais donné ce titre-là dans mon livre, hein, « Les combats intérieurs », et c'est le seuil qui m'a demandé de changer le titre. Bon, mais alors, j'ai toujours eu en moi le remords de m'être trouvé au sein d'une armée d'occupation dans des pays où les habitants voulaient se libérer et vivre indépendants de la colonisation à laquelle ils étaient soumis jusque-là. Alors ça, pour moi, c'était un drame de conscience, parce que j'avais sauté la barrière, j'étais dans la situation inverse de celle dans laquelle j'étais et à laquelle je croyais et qui était pour moi quelque chose d'enthousiasmant pendant la résistance. Alors que là, j'avais des remords de me trouver dans cette situation. Et puis en plus, j'en ai rajouté, parce que en Indochine, bon, j'ai eu une conduite, je crois, très, très honorable, hein, puisque j'ai crié mon mal au cœur, j'ai dit que c'était injuste, que cette guerre était mauvaise, etc. J'étais sanctionné deux fois en Indochine. Mais en Algérie, je me suis mis dans le bain, voyant les attentats qui se perpétuaient, et puis l'intoxication par l'action psychologique, eh bien, je me suis trouvé du côté de la répression. Et j'ai été répressif. J'ai désigné des otages. Moi, l'ancien résistant, j'ai désigné des otages pour être fusillé. Hein. Eh bien, c'est pas beau. Bon, ben, je l'ai fait. Je l'ai dit parce que c'est la vérité.
C'est ce que vous appelez faire votre métier honnêtement. Général de Gaulle disait « La guerre, c'est comme la chasse. » Mais il rajoute « Mais les lapins, aussi, il tire. Monsieur Albert Thoman, le général Giap, nommé par Jean Lacouture, un volcan sous la neige, vous avez croisé son chemin ?
Non.
Parce que le général Giap, il est mort le 4 octobre, à 102 ans, et il est reconnu par tout le monde comme un génie militaire. Est-ce qu'on peut avoir de la considération pour ses ennemis ?
Oui, bah bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement, puisque c'était les gens que je combattais, c'était mes camarades de cœur. J'avais le même idéal qu'eux, et ceux avec lesquels je me trouvais, c'était mes camarades de raison, ceux dans l'armée de laquelle j'étais. Alors donc, le général Giap, pour moi, c'était quelqu'un d'extraordinaire.
Je vous remercie, Monsieur Pierre Alban Thomas, de votre témoignage. Je rappelle que vous avez écrit deux ouvrages, « Le désarroi d'un officier français en Algérie », de la résistance à l'Indochine aux éditions de l'Harmattan. Je rappelle aux auditeurs que la photo à laquelle j'ai fait allusion est visible sur le site photophonique.fr. Merci.
Merci.